Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va très bien, je te remercie.
Ça va bien, merci. On commence aujourd'hui, on amorce une nouvelle série ici à Sans détour. On va parler de vulgarisation scientifique. On va faire le tour des nouvelles qui, au cours du mois, devraient retenir notre attention, mais qui parfois c'est un peu compliqué ou peut-être on est rebuté par la complexité du sujet. Alors, on passe outre, mais ce sont souvent des choses qui sont porteuses d'espoir. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a comme récolte? On va parler de glaucome et de dégénérescence maculaire.
Effectivement, puis ben, tiens, on va commencer avec le glaucome, puisque tu as introduit ça avec ça. Donc, on va commencer avec un petit rappel, là. Le glaucome, qu'est-ce que c'est exactement cette maladie-là? On peut donc se dire essentiellement que c'est une lésion, c'est une maladie qui est associée à une lésion du nerf optique, donc le petit câble électrique là, qui nous permet de conduire les signaux lumineux jusque dans le cerveau, là où l'information va être analysée. Glaucome est très souvent, voire probablement tout le temps, accompagné aussi d'une pression intraoculaire qui est beaucoup trop élevée. C'est souvent ça qu'on va remarquer. Puis si on s'intéresse un petit peu plus en profondeur à la nature même du problème, ben on pourrait.
Pourquoi il y a une pression? Voilà.
Oui, exactement. Pourquoi il y a une pression finalement plus élevée dans l'œil? Ben, c'est une question de production et d'élimination d'un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse, donc un liquide qui se retrouve dans l'œil. En gros, là, donc l'humeur aqueuse est produite quelque part au niveau sous le cristallin, ou tout près du moins. Ce liquide-là va traverser par la pupille, l'iris, puis il vient nourrir finalement l'œil, les cellules à ce niveau-là, puis il va être éliminé par des petits canaux. On peut donc imaginer que c'est comme si finalement on a un lavabo qui coule, un robinet qui coule, puis qui s'écoule dans le lavabo tout simplement. Le problème ici avec le glaucome, c'est qu'on a des canaux qui sont obstrués, qui sont bouchés.
Alors,
Donc le liquide
le
s'accumule.
drainage ne se fait pas bien.
Voilà, le lavabo se remplit, ne se vide plus. Donc la quantité de liquide augmente dans l'œil, et ce qui justement amène une pression trop élevée à l'intérieur de l'œil. Et donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette problématique-là. Puis ce qui m'a retenu l'attention ici, c'est une étude produite par le professeur Adriana Di Polo, de l'Université de Montréal. Donc, son équipe de recherche a identifié des mécanismes qui sont à l'origine des principales défaillances vasculaires chez les personnes qui ont le glaucome. Et pour poursuivre là-dedans, bien, ils se sont intéressés à des cellules en particulier, des cellules qu'on appelle des péricytes.
Les
Ces
péricytes.
cellules-là, oui, péricytes, voilà un nouveau mot ajouté dans notre
OK.
vocabulaire. Donc, des péricytes, ce sont des cellules qui vont, disons, en quelque sorte, enrober les capillaires, les petits vaisseaux sanguins qui permettent d'acheminer le sang, dans ce cas-ci, le sang jusqu'aux cellules de la rétine. Donc, on le sait, le sang transporte quoi? De l'oxygène, des nutriments, ce dont les cellules ont besoin pour bien,
Pour
bien se
vivre.
comporter, bien, 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 bien survivre, finalement. Et les péricytes, ça fonctionne comment? Ben, ça vient en quelque sorte contracter les vaisseaux sanguins, les petits capillaires, pour réguler la quantité de sang qui circule. Ça fonctionne un peu comme un serpent qui
Un
entoure sa proie.
serpentin autour du tout petit tube. Là, on parle de nanotube. Alors là,
Oui,
c'est
nanotubes,
microscopique.
on va y arriver dans quelques instants. Tu touches un point qui s'en vient. Si on revenait donc sur la notion des péricytes, les chercheurs en laboratoire ont utilisé un modèle de souris, donc des souris dans lesquelles artificiellement, on crée une pression intraoculaire. Donc, on a une façon de procéder pour ça. Donc, ça reproduit finalement un modèle de la maladie du glaucome, puisqu'on y a. Et ce qu'on remarquait avec ce modèle de souris-là, c'est que le diamètre des capillaires était vraiment plus petit. Quelque chose qui peut-être a à voir avec les péricytes. Et ces péricytes-là communiquent entre eux par des fins petits tuyaux. C'est ça, les fameux nanotubes que tu
Ah,
viens de
OK.
nommer.
Les nanotubes font le lien entre les péricytes.
Exactement, c'est une façon pour les péricytes de communiquer entre eux et d'avoir une action concertée là, quand ils veulent agir. Parce qu'il faut se le dire, c'est quand même normal que les péricytes puissent contrôler la pression sanguine au niveau des capillaires. L'ennui, c'est que dans ce cas-ci, les gens, c'est-à-dire lorsqu'il y a une pression intraoculaire trop élevée, bien, ces petits nanotubes-là sont également endommagés. Puis ça fait quoi, finalement? S'il y a moins de sang qui s'en va jusqu'aux cellules de la rétine, bien, on se retrouve dans une situation où les cellules vont mourir, puis on a une perte de vision associée à ça. Le point tournant de cette étude-là, c'est qu'ils ont été capables de montrer que le calcium, on connaît ça, là,
c'est peut-être un des éléments chimiques qu'on connaît le plus, surtout l'hiver.
Exactement. Voilà. Oui, exactement. Des journées comme aujourd'hui, justement, on en est pas un peu sur la route. Donc, le calcium, au niveau physiologique, a plusieurs fonctions, mais notamment le calcium va améliorer cette capacité-là des péricytes à comprimer les capillaires. Mais le problème avec le glaucome, c'est qu'il y a beaucoup trop de calcium qui va entrer dans les péricytes. Donc, on a une certaine dérégulation du fonctionnement des péricytes.
Parce que souvent, on voit ça en plomberie, là, quand il y a des dépôts calcaires, si l'eau de la ville est trop dure, notre bouilloire s'encrasse ou ainsi de suite. Ouais. Alors, il y a des dépôts, le calcium, finalement, s'accumule dans les tout petits tubes et de la vascularisation de l'œil, et ça empêche...
Dans ce cas-ci, c'est, disons, le calcium vient, disons, favoriser une contraction. Là. C'est vraiment l'action mécanique au niveau des cellules des péricytes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si on empêche cette entrée de calcium-là excessive dans les péricytes, ben, on vient justement rétablir un peu mieux le fonctionnement des cellules péricytes puis du flux sanguin qui s'en va jusqu'aux cellules de la rétine. La rétine qui est la couche, si tu veux, au fond de l'œil sur lequel les rayons lumineux vont frapper.
Ah, donc, en fait, le taux de calcium dans le système oculaire serait une clé pour essayer d'identifier des problèmes possibles. S'il y a trop de calcium, comme on vient de le voir, on peut penser aussi que s'il y a une déficience, on pourrait avoir un problème inverse. Donc, le calcium, parce qu'on associe le calcium avec les os, pas avec les yeux.
Voilà une autre démonstration que le calcium a des rôles ailleurs que dans la structuration des os, on va dire.
Voilà. OK. Alors ça, cette avancée-là par l'Université de Montréal permettrait peut-être de trouver une clé pour prévenir ou corriger les problèmes liés au glaucome.
Une autre cible sur laquelle on pourrait agir. Puis évidemment, ça va prendre d'autres recherches pour avancer là-dessus, mais l'idée, c'est que ça nous fait une autre cible potentielle pour développer des thérapies pour tenter de freiner ou d'améliorer la condition des personnes atteintes de glaucome. Par exemple.
Parce que quand on parle de glaucome, on parle souvent de la nécessité de faire une détection hâtive, parce qu'au début, le glaucome, on n'a aucune sensation, on ne sait pas que notre œil est attaqué, et là aussi, il y a des avancées sur la détection.
Exactement, c'est formidable, parce que justement... dernièrement, il y a une petite start-up, donc une compagnie qui a mis au point un instrument qui est en fait un casque. Un casque comme on en voit là, les gens qui jouent à des jeux immersifs, là, des jeux vidéo où on porte des lunettes pour voir des décors en trois dimensions. Bien, dans ce cas-ci, c'est un casque qui combine évidemment de la technologie de la réalité virtuelle, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et c'est un casque qui permet de réaliser, dans le fond, des mesures, du monitorer, donc faire un suivi régulier ou encore de diagnostiquer, comme tu dis, peut-être de manière plus facile, plus précoce, les gens qui pourraient donc présenter des symptômes liés au glaucome. Ce casque-là, essentiellement, fonctionne un peu comme un tensiomètre, donc l'appareil qui permet de mesurer la pression artérielle, là, ce qu'on porte au bras, là, l'espèce de brasseur.
Qui se gonfle, là, puis qui resserre, qui nous...
Disons, oui. Oui. Je t'écoute. l'idée, c'est que ce casque-là va envoyer une pression d'air, donc on le porte évidemment devant les yeux, va générer une pression d'air décroissante, donc une pression élevée vers une pression plus basse. Et il y a des petites caméras dans ce casque-là qui vont filmer le comportement des yeux, mais plus précisément, va enregistrer les pulsations au niveau des petits vaisseaux sanguins qu'on a dans l'iris. Et aussi au niveau du blanc de l'œil, donc la sclérotique. Et ça va générer donc des graphiques, si on peut dire, qui vont permettre de mesurer ultimement la pression intraoculaire dans les yeux.
C'est comme prendre la pression sanguine avec le brassard autour du bras, mais là, ça se fait comme pour l'œil, avec un appareil qui ressemble à un masque de plongée. Là, il faut que ce soit hermétique, évidemment, pour que les variations de pression soient faites adéquatement. Mais ça permettrait aussi donc de détecter le glaucome de façon précoce sans être nécessairement dans le cabinet de l'ophtalmologiste.
C'est justement le point intéressant de cette innovation-là, c'est qu'on sera en mesure donc de faire un test de manière plus autonome, donc à la maison, sans nécessairement avoir un spécialiste présent aux côtés de nous pour faire cet examen-là. Parce que normalement, quand on va chez l'optométriste ou l'ophtalmologiste, ben, il y a des examens qui vérifient pour vérifier la pression intraoculaire. Des examens qui donc nécessitent un spécialiste, nécessitent parfois l'ajout de gouttes ophtalmologiques pour faire ça.
Exact.
Parce que si on est capable de le faire de manière autonome, et puis on peut penser que cet appareil-là pourrait être donc distribué peut-être même dans des régions qui sont où les services liés aux examens de la vue sont moins accessibles là, par les gens, par exemple. Fait que ça a quand même un potentiel intéressant pour justement essayer de détecter peut-être de manière plus précoce ou plus facilement, une autre alternative du moins pour arriver à faire de la détection de cette maladie-là.
Oh, ben c'est prometteur. Et oui. Maintenant, on va passer du glaucome à la dégénérescence maculaire. Et là aussi, il y a des avancées.
Oui, tout à fait. Je vais essayer de faire ça vite, mais je vois que le temps...
Oh non! c'est précieux de ces informations-là. Merci.
OK, d'accord. Ben, écoute, la dégénérescence maculaire, bon, ben, grosso modo, on voit bien, là, il y a la macula là-dedans qui est la source du problème. Macula, c'est au niveau du centre de la rétine, mais plus encore, au centre de la macula, on retrouve des cellules, des photorécepteurs qui sont des cônes. Ce qui arrive finalement, c'est que ces cônes-là vont mourir, si on peut dire ça. Ils vont être atteints et puis on perd la capacité d'avoir une bonne vision centrale. On a une diminution de la vision centrale. On perd aussi donc la capacité à bien voir les fins détails, par exemple. Quoi d'autre aussi? Ben, c'est une maladie qui, évidemment, apparaît avec un certain âge en général. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont été capables de créer un implant dérivé de cellules souches. Et cet implant-là, une fois implanté au niveau de la rétine de personnes qui sont atteintes de dégénérescence maculaire, ben, ils ont présentement observé que, cet implant-là n'est pas rejeté par l'organisme.
C'est important parce que c'est tout le problème des greffes. Là. Il faut prendre une médication très lourde pour qu'un corps étranger soit accepté.
Exactement. Dans ce cas-ci, avec une légère dose d'immunosuppresseur avant et après la chirurgie, ben justement, ils ont été capables de montrer que l'implant va survivre, survit très bien, en fait, même après 2 ans suivant l'opération. Ces gens-là ont une certaine amélioration des fonctions visuelles, mais surtout aussi c'était de faire la démonstration qu'il était possible de faire une telle transplantation sans avoir recours à des immunosuppresseurs de manière agressive. Et évidemment, l'aspect intéressant de cette étude-là, c'est de faire ça à partir de cellules souches.
Oui.
Donc, des cellules souches qu'on a différenciées. Des cellules souches, c'est des cellules qui ont la capacité de
devenir autre chose. En fait,
c'est... Exactement.
Voilà.
Toutes les cellules de notre organisme, autrement dit, en laboratoire, avec des recettes particulières, on arrive à produire certains types cellulaires. Dans ce cas-ci, les cellules souches ont été utilisées afin de produire, on appelle ça des cellules pigmentaires rétiniennes. Donc,
ça semble à la rétinite pigmentaire, là, ce que vous décrivez. Oui.
Tout à fait, exactement. Donc, finalement, on a pris ces cellules-là, on les a cultivées en laboratoire, puis on les a implantées sous forme d'une fine petite membrane au niveau de la macula. Puis, cette étude-là, en ce moment, vise aussi à s'assurer que ce n'est pas nocif, là, que l'innocuité, finalement, de ce traitement-là. Mais déjà, présentement, on peut observer déjà une certaine amélioration de la vision chez ces personnes-là atteintes de dégénérescence maculaire. Donc, on est déjà en mesure d'observer déjà des effets très positifs de cette approche-là qui va sans doute se développer. Puis, pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Ce n'est pas accessible. Ce n'est pas un traitement qui est accessible. Mais on peut imaginer que d'ici peut-être quelques années, on verra cette autre alternative-là pour aider les gens qui souffrent de dégénérescence maculaire.
Ça, c'est une recherche qui émane de l'Université University of Southern California.
Exactement.
Si vous voulez poursuivre vos recherches, c'est le docteur Michael Humayun, Humayun, qui est responsable de cette recherche-là. Ben, c'est peut-être pas des choses qui sont disponibles demain matin, mais voilà, quelques vallées plus tard, quelques années plus tard, peut-être ça se rendra jusqu'à nous, puis ça va nous aider dans la guérison ou le traitement de maladies oculaires. Ben, merci beaucoup, absolument. Philippe Ducharme. Ça a été encore une fois un plaisir. Puis on se reparle dans un mois. Parce que l'actualité scientifique n'arrête pas. Il y aura certainement d'autres sujets à aborder à ce moment-là. Merci.
Absolument. Bonne fin de journée. Bye-bye.